Chapitre 1. La Grande Bleue. Un attroupement s'est formé au pied de l'imposante bâtisse qui se dresse à l'entrée du port de Honfleur. C'est là, à la lieutenance du roi de France, que viennent tous ceux qui rêvent de partir pour la Nouvelle-France. Deux soldats se tiennent en arrière d'une table. L'un, debout pour surveiller la foule, et l'autre, assis, une plume à la main.
« Ton nom, mon garçon ?»«
Étienne Brûlé. »«
D'où viens-tu ?»«
De la campagne proche de Paris. »«
Pourquoi veux-tu t'engager comme mousse ?»«
Ma famille est trop pauvre. Nous vivons dans la misère et nous mangeons à peine. Alors j'ai décidé de partir tenter ma chance ailleurs. Ça fait une bouche de moins à nourrir. »«
Quel âge as-tu ?»«
L'âge de pouvoir embarquer. »
Le soldat hausse les épaules.
Il tend une feuille froissée au jeune homme et désigne du doigt l'endroit où signer.
Tu ne dois certainement pas savoir écrire. Alors fais comme tout le monde et trace une croix, ça suffira.
Étienne n'hésite pas une seconde. C'est à peine s'il entend le soldat lui énumérer les conditions qu'il vient d'accepter. La seule chose qu'il retient, c'est le nom du bateau sur lequel il doit embarquer. Le don de Dieu. Les jours suivants, Étienne ne quitte plus les quais. Son impatience lui fait craindre que le bateau parte sans lui. Il passe son temps à flâner au milieu des marchands. Dès que quelques marins se rassemblent, il se glisse parmi eux pour écouter ce qu'ils racontent. Il se remplit les oreilles d'histoires toutes plus fantastiques les unes que les autres. Celles des pêcheurs de morue dans les mers glaciales l'impressionnent autant que les récits de ceux qui ont eu à affronter les corsaires. Cependant, il ne perd jamais des yeux le don de Dieu autour duquel grouille une véritable fourmilière. Des dizaines d'hommes chargent la cargaison. Des vivres, des tonneaux, des ballots. D'autres poussent sur une étroite passerelle des bœufs et des cochons apeurés dont les cris envahissent le port.
Larguez les amarres !
La phrase résonne dans la tête d'Étienne comme un coup de tonnerre au milieu du brouhaha qui règne sur le quai. Il l'a souvent entendue, agglutinée à la foule venue regarder le départ des grands vaisseaux. Mais aujourd'hui, en ce 13 avril 1608, il est enfin à bord du don de Dieu. Cette fois, son désir de partir, d'aller voir ailleurs et de découvrir ce qui se passe en Nouvelle-France est devenu une réalité. Il est tellement excité qu'il ne sait plus où donner de la tête. Massée sur les quais, la foule pousse des cris de joie et chante pour saluer ce départ. Autour du garçon, les matelots s'affairent au rythme du sifflet strident qui dicte les manœuvres. Tout ce mouvement l'étourdit. Il n'est pas habitué. Soudain, il reçoit une violente bourrade dans le dos qui le précipite sur le pont. Affalé au milieu des cordages, il réalise à peine ce qui vient de se passer. Une main ferme le saisit par le collet et le relève sans ménagement.
« Oh, gamin, ce n'est pas le temps de rêver. Attrape ce cordage et aide-nous à le tirer à bord. »
Les marins éclatent de rire. L'un d'eux l'interpelle.
« Dis donc, le petit haut, tu n'as pas peur de blesser tes belles mains de genoux ?»«
Mes mains de paysans en ont vu d'autres. Ce n'est pas un marin comme toi qui va m'insulter. »
Blessé dans son orgueil, Étienne retient ses larmes. Il saisit furieusement une section du cordage que les marins tirent sur le pont. La dureté du chanvre mouillé lui brûle la paume. Il serre les dents et ne lâche pas prise. Pas question de leur montrer qu'il a mal. Les premiers jours de navigation, les moments de repos sont rares. Étienne se plie rapidement à une routine quotidienne exigeante. Les heures de sommeil sont courtes. Dès 4 heures du matin, en compagnie des autres mousses, il doit nettoyer le pont à l'eau de mer. Le vent froid et l'humidité qui colle aux vêtements compliquent la tâche. Mais Étienne ne se décourage pas. Dès qu'il le peut, il s'appuie sur le bastingage pour admirer l'immense étendue bleue qui s'étire à l'infini. Les semaines passent. L'excitation des premiers jours cède la place à l'ennui. La vie quotidienne à bord devient de plus en plus difficile. Dans l'entrepont, où s'entassent les passagers et l'équipage, les heurts sont fréquents. Certains en viennent au coup à la moindre occasion. Beaucoup sont malades. L'inconfort se fait sentir au fil des jours. Étienne dort mal dans son hamac. Il faut y dormir tout habillé et ses vêtements sont détrempés. L'humidité et le froid mordant rendent tout mouvement pénible. Il supporte pourtant le tout sans jamais se plaindre. Une qualité que le premier maître remarque. Un matin, il rejoint le jeune homme sur le pont. Étienne est en train d'aider un autre mousse à rouler des cordages.
Approche-toi, petit. Je t'observe depuis plusieurs jours. Tu sembles bien vaillant et déterminé. On dirait que la mer ne t'incommode pas.
Non, monsieur.
Est-ce ta première traversée?
Oui, monsieur.
Écoute bien ce qu'on dit chez moi dans ma Hollande natale. Mieux vaut être sur terre dans un chariot usé que sur mer dans un bateau neuf. Tu es certain de ne pas regretter ta décision d'avoir embarqué?
Certain, monsieur.
Les recrues de la trempe d'Étienne sont rares. Le premier maître en fait alors son homme de confiance et lui confie des tâches habituellement réservées aux matelots. Un matin, le bateau est violemment secoué d'un bord à l'autre. Étienne se précipite sur le pont. Un vent glacial lui fouette le visage. Le ciel est obscurci par d'énormes nuages noirs. D'immenses vagues déferlent sur le pont, emportant tout sur leur passage. Étienne s'agrippe aussitôt à un cordage et s'attache pour ne pas être entraîné par-dessus bord. Le premier maître hurle ses ordres. Il faut carguer les voiles. Certains matelots, les plus jeunes, sont figés par la peur et se mettent à prier. Ils craignent que les monstres marins les emportent. Étienne est saisi de frayeur en voyant le déchaînement des flots. Sur le pont, tout ce qui n'est pas attaché est entraîné par le mouvement de roulis. Un tonneau vient se briser violemment contre le pied du mât principal. Le jeune homme fait un brusque mouvement de reculons pour l'éviter et il se prend les pieds dans une pièce de bois. Il perd l'équilibre. Sa tête heurte le bastingage au moment où une énorme vague déferle sur le pont. À demi assommé, il suffoque sous la masse d'eau qui le submerge. Soudain, il voit qu'un de ses compagnons est entraîné, sans pouvoir résister. Étienne n'hésite pas une seconde. Il détache le cordage qui le retient au mât et s'élance. Une main agrippée à l'une des écoutes de la grande voile, il arrive à saisir la jambe du marin de son autre main. Pendant de longues secondes, il lutte contre la force du courant. La vague disparue, Étienne aide son compagnon à se relever. C'est un jeune mousse, comme lui.
« Merci. Sans toi, j'y serais passé. Je te dois la vie. Comment t'appelles-tu ? » ?
« Étienne. Et toi ? » ?
« Nicolas. Désormais, entre nous, c'est à la vie, à la mort. »
Trop effrayé, il ne s'était pas attaché. Le premier maître, qui a tout vu, est fort impressionné par la maîtrise dont Étienne a fait preuve. Il en fait part à Champlain. Le lendemain, tout est revenu au calme. Pendant que l'on fait la liste des pertes, une partie de l'équipage répare les dégâts. Étienne et le jeune mousse qui l'a sauvé font connaissance en nettoyant le pont jonché de débris. Tout à leur tâche, ils remarquent à peine la présence de Champlain. Celui-ci s'approche d'eux et s'adresse à Étienne.
J'ai eu connaissance de ton geste d'hier. Le courage dont tu as fait preuve est tout à ton honneur. La Nouvelle-France a besoin d'hommes comme toi. Tu pourras y faire de grandes choses. En attendant, ce soir, exceptionnellement, vous souperez tous les deux à ma table avec mes officiers.